Chapitre 4. Sous le grand vide réservé par la hauteur des voûtes au vol des prières, moutonnait le troupeau bigarré des êtres humains. Ils étaient là, tous, au pied du catafalque, entourés de lumière et couverts de fleurs. Durville, le vieux Maury, Delage, Vicard, Destré, Léoclime, Valroche, Amand, Régnard, Pradel et Romilly, et Marchejet, le régisseur. Et elles étaient là, toutes, Madame Ravot, Madame Douce, Hélène, Midi, Douvernet, Herschel, Falempin, Stella, Marie-Claire, Louise Dalle, Fagette, Nanteuil, agenouillées et vêtues de noir, comme des élégies. Quelques-unes lisaient dans des livres de messe. Il y en avait qui pleuraient. Toutes apportaient au moins au cercueil de leurs camarades leurs paupières battues et leur teint blêmi par le froid du matin. Des journalistes, des acteurs, des auteurs dramatiques, des familles entières de ces artisans qui vivent du théâtre et une foule de curieux emplissaient la nef. Les chantres poussaient les cris lamentables du Kyrie Eleison. Le prêtre baisa l'autel, se tourna vers le peuple et dit « Dominus vobiscum ». Romilly, enveloppant du regard le public, « Oh, chevalier a une bonne salle !»« Regarde donc Louise Dalle, » dit Fagette. « Oh, pour en avoir l'air en deuil, elle a mis un waterproof en caoutchouc noir. » Demeuré un peu en arrière avec Pradel et Constantin Marc, le docteur Trublet faisait à voix basse, selon sa coutume, ses essais moraux. « Remarquez, dit-il, que sur l'autel et autour du cercueil, on allume en guise de cierge de petites veilleuses sur des queues de billard, et qu'ainsi l'on offre au Seigneur de l'huile à quinquet pour de la cire vierge. Les hommes pieux qui vivent dans le sanctuaire ont été de tout temps enclins à faire leur dieu de ces petites tromperies. L'observation n'est pas de moi, elle est, je crois, de Renan. Le célébrant, à droite de l'autel, récitait à voix basse Nolumus autem vos ignorare fratres de dormientibus, ut non contristemini sicut et caeteri quispem non habent. Alors qu'est-ce qui prend le rôle de Florentin ? Demanda Derville à Durmilly. C'est Renard, il ne sera pas plus mauvais que chevalier. Pradel tira Trublet par la manche. Docteur Socrate, je vous prie de me dire si, comme savant, comme physiologiste, vous voyez de graves difficultés à ce que l'âme soit immortelle. Demandez cela en homme affairé, pratique, qui a besoin d'un renseignement personnel. Vous savez sans doute, mon cher ami, répondit Trublet, ce que disait à ce sujet l'oiseau de Cyrano. Un jour, Cyrano de Bergerac entendit deux oiseaux converser dans un arbre. L'un disait « L'âme des oiseaux est immortelle ». Ce n'est pas douteux, répliqua l'autre, mais ce qui ne se conçoit pas, c'est que des êtres qui n'ont ni bec ni plume, qui n'ont pas d'ailes et qui marchent sur deux pieds, croient avoir, comme les oiseaux, une âme immortelle. C'est égal, dit Pradel, d'entendre l'orgue, moi ça me fout des idées pieuses. Requiem aeternam donaeis domine. L'auteur célèbre de la nuit du 23 octobre 1812, apparut dans l'église, et au même moment, il fut partout à la fois, dans la nef, sous le porche et dans le chœur. Comme le diable boiteux, il fallait qu'enfourcher sa béquille. Il volait par-dessus les épithètes pour passer, comme il le fit en un clin d'œil, du député Morlot, qui, libre penseur, restait sur le parvis, à Marie-Claire agenouillée sous le catafalque. Dans la même seconde, il chuchota aux oreilles de tous et de toutes des paroles agiles. « Pradel, concevez-vous ce garçon qui plante là son rôle, un rôle excellent, et va se suicider comme une gourde ? Il se brûle la cervelle l'avant-veille de la première. Et nous oblige à faire un raccord et nous retarde de 8 jours. Quel crétin ! On était diablement mauvais !» Mais c'est une justice à lui rendre, il sautait bien, l'animal. Mon bon Romilly, nous faisons le raccord aujourd'hui à 2 heures. Veillez à ce que Régnard ait la copie de son rôle et sache grimper sur les toits, pourvu qu'il nous porte à chaque pas dans les mains, comme chevalier. S'il allait aussi se suicider, celui-là, et ne riez pas, il y a un sort sur certains rôles. Ainsi, dans mon Marino Faliero, le gondolier Sandro se casse le bras à la répétition générale. On me donne un autre Sandro, et il se foule le pied à la première représentation. On m'en donne un troisième, il attrape la fièvre typhoïde. Ma petite note, je te confierai une magnifique création quand tu seras au Français. Mais j'ai juré, mes grands dieux, de ne plus faire jouer une seule pièce dans ce théâtre-ci. Et tout aussitôt, sous la petite porte qui ferme le chœur du côté de l'épître, montrant à des confrères l'épitaphe de Racine, scellée dans le mur, en parisien curieux des antiquités de sa ville, il rappelait l'histoire de cette pierre. Il disait que le poète avait été enseveli, selon son désir, à Port-Royal des Champs, au pied de la fosse de M. Hamon, et qu'après la destruction de l'abbaye et la violation des sépultures, le corps de Messire Jean Racine, secrétaire du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, avait été transporté sans honneur à Saint-Étienne-du-Mont. Et il contait comment la pierre tombale, portant sous le cimier de chevalier l'écran du signe d'argent, l'inscription composée par Boileau et mise en latin par M. Dodard, avait servi de dalle dans le cœur de la petite église de Magny-les-Sarts, où elle avait été trouvée en 1808. « La voici, ajouta-t-il. Elle était brisée en 6 morceaux et le nom de Racine effacé par les souliers des paysans. On a rajusté les fragments et refait les lettres qui manquaient. » Sur ce sujet, il s'étendait avec sa vivacité et son abondance coutumière, tirant de sa prodigieuse mémoire une multitude de faits curieux et d'amusantes historiettes, animant l'histoire et passionnant l'archéologie. Son admiration et sa colère jaillissaient coup sur coup, avec violence dans la solennité du lieu, à travers la pompe de la cérémonie. « Oh, je voudrais bien savoir, par exemple, quels sont les goujats stupides qui ont scellé cette pierre dans ce mur ?» Iki acet nobilis vir Johannes Racine, mais c'est pas vrai. Il faut mentir l'épitaphe de l'honnête Boileau. Le corps de Racine n'est pas à cette place. Il a été déposé dans la troisième chapelle à gauche en entrant. Quels idiots! Et soudain, tranquille, il montra la pierre tombale de Pascal. Oh, elle provient du musée des petits Augustins. On n'aura jamais assez de louanges pour le noir, qui, sous la Révolution, recueillit, conserva, il improvisa un second cours familier d'archéologie lapidaire, plus brillant que le premier, fit de l'histoire de Pascal un drame amusant et terrible, et disparut. Il était resté en tout 10 minutes dans l'église. Sur ses têtes, pleines de soucis mondains et de désirs profanes, le dies irae grondait comme un orage. Mos tupebit et natura, cum resurget creatura judicanti responsura. Dis donc, dit-il, comment cette petite Nanteuil, qui est jolie et intelligente, a-t-elle pu se mettre avec un sale cabot comme chevalier? Et votre ignorance du cœur des femmes m'étonne. Merchel était plus jolie quand elle était brune. Qui mariam absoluisti, et latronem exaudisti, mi quoque spem dedisti. Ah, faut que j'aille déjeuner. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaisse le ministre? Oh, Durville est claqué, il souffle comme un phoque. Faites-moi donc passer une petite note sur Marie Fallopin. Elle a été délicieuse dans les 3 magots, je vous assure. Inter ves locum presta et aboidis mexiquestra, statuens in parte dextra. Alors, c'est pour Nanteuil qui s'est fait sauter le caisson. Une petite grue qui vous passe derrière plein d'eau chaude. Le célébrant mit le vin et l'eau dans le calice et dit Deus qui humanae substantiae dignitatem, mirabiliter condidisti. Est-ce que vraiment, docteur, il s'est tué parce que Nanteuil ne voulait plus de lui? Il s'est tué, répondit Trublet, parce qu'il en avait un autre. L'obsession des images génétiques détermine parfois la manie et la mélancolie. Vous connaissez pas les cabots, Sœur Socrate, dit Branel. Il s'est tué pour faire un effet, pas pour autre chose. Ah, il n'y a pas que des cabots, dit Constantin Marc, qui éprouve un besoin irrésistible d'attirer à tout prix l'attention sur eux. L'année dernière, chez moi, à Saint-Bartholomé, pendant qu'on battait à la machine, un enfant de 13 ans mit dans l'engrenage son bras, qui fut broyé jusqu'à l'épaule. Et alors le médecin qui l'avait amputé lui demanda, en faisant un pansement, pourquoi il s'était ainsi mutilé. Et l'enfant avoua que c'était pour qu'on fît attention à lui. Cependant, Nanteuil, les yeux secs et les lèvres serrées, regardait fixement le drap noir qui recouvrait le cercueil et attendait avec impatience qu'il eût assez d'eau bénite, de cierges et de prières latines sur le mort pour qu'il s'en allât bon et résigné. Elle l'avait revu cette nuit, et elle pensait qu'il était revenu parce que les prêtres n'avaient pas encore prononcé sur lui les paroles de paix. Puis, songeant qu'un jour elle mourrait aussi et serait couchée comme cet homme, dans un cercueil, sous un drap noir, elle frissonna d'épouvante et ferma les yeux. L'idée de la vie était si puissante en elle qu'elle se figurait la mort comme une vie affreuse. Elle eut peur de mourir et elle pria pour vivre longuement. Agenouillée, la tête inclinée et la cendre voluptueuse de ses cheveux légers lui tombant sur le front, elle lisait, pénitente profane, dans son livre des paroles qu'elle ne comprenait pas et qui la rassuraient. Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, délivrez les âmes de tous les fidèles défunts des peines de l'enfer et des profondeurs de l'abîme. Délivrez-les de la guerre du lion, que l'enfer ne les ensevelisse pas et qu'ils ne tombent pas dans les ténèbres, mais que Saint-Michel, le prince des anges, les conduisent à la lumière sainte que vous avez promise à Abraham et à sa postérité. Au moment de l'élévation, l'assistance, pénétrée d'un vague sentiment que le mystère devenait plus auguste, cessa les conversations particulières et affecta quelque apparence de recueillement. Et dans le silence des orgues, au tintement de la clochette agitée par un enfant, les têtes se courbèrent. Puis, après le dernier évangile, quand l'office terminé, le prêtre, suivi de ses acolytes, s'approcha du catafalque au chant du Libera, il y eut dans la foule un mouvement de délivrance et l'on se bouscula un peu pour défiler devant le cercueil. Les femmes, dont la piété, la tristesse et la contrition dépendaient de leur immobilité et de leur agenouillement, furent tout de suite ramenées à leurs idées coutumières par le mouvement et les rencontres du défilé. Elles échangèrent entre elles et avec les hommes les propos de leur état. « Tu sais, dit Hélène Midi à la Falampin, que Nanteuil entre à la Comédie française ? Pas possible ! Oui, l'engagement est signé. Mais comment a-t-elle obtenu ça ? Bon, c'est pour jouer à la comédie, bien sûr, répondit Hélène, qui commença une histoire très scandaleuse. « Prends garde, dit Falampin, elle est derrière toi. »« Bon, je la vois bien. Elle en a eu un front de venir ici, crois-tu » Marie-Claire coula dans l'oreille de Darville une nouvelle extraordinaire. « On dit qu'il s'est suicidé. »« Eh bien, c'est pas vrai. Il s'est pas suicidé du tout. Et la preuve, c'est qu'on l'enterre à l'église. »« Alors ?» demanda Durville. « Bien, monsieur de Ligny l'a surpris avec Nanteuil et l'a tué. »« Allons donc, mais je t'assure que je suis bien informé. » Les conversations devenaient vives et familières. « Ah, vous voilà, vieux marcheur. L'Arsène baisse déjà. Stella s'est fait recommander par 17 députés, dont 9 de la commission du budget. »« Ah, je vais pourtant dire à Herschel, le petit bouquin, c'est pas votre affaire, il vous faut un homme sérieux. » Quand la bière, au bras des croque-morts, passa sous le portail, les rayons délicieux d'un soleil d'hiver descendirent sur les visages des femmes et sur les roses du cercueil. Rangées des deux côtés du parvis, Quelques jeunes gens des écoles cherchaient les figures célèbres. Les petites ouvrières des ateliers voisins, se tenant deux à deux enlacées, méditaient les toilettes des actrices. Et, dressés contre le porche sur leurs pieds endoloris, de vagabonds accoutumés à vivre sous le grand ciel doux ou farouche, tournaient lentement des regards mornes, tandis qu'un collégien contemplait avec ivresse les cheveux ardents qui tordaient leurs flammes sur la nuque de Fagette. Arrêtée devant les portes au plus haut degré des degrés, elle causait avec Constantin Marc et quelques journalistes. Oh, monsieur de Ligny, oh, il était assidu chez moi bien avant de connaître Nanteuil. Il me regardait des heures entières avec des yeux passionnés, sans oser rien dire. Je le recevais volontiers parce qu'il était très convenable. C'est une justice à lui rendre. Il a d'excellentes manières. Il se montrait aussi réservé que possible. Enfin, un jour, il me déclara qu'il était amoureux fou de moi. Je lui répondis que puisqu'il me parlait sérieusement, je ferais de même, et que j'éprouvais un vrai chagrin de le voir dans cet état, et que chaque fois que pareille chose arrivait, j'en étais vivement contrarié, mais que j'étais une femme sérieuse, que j'avais arrangé ma vie, et que je ne pouvais rien pour lui. Il était désespéré. Il m'annonça qu'il partait pour Constantinople, qu'il ne reviendrait plus. Et il ne se décidait ni à rester ni à s'en aller. Puis tomba malade. Et Nanteuil, qui croyait que je l'aimais et que je voulais le garder, se donna tout le mal possible pour me le prendre. Elle lui fit des avances folles. Je la trouvais parfois un peu ridicule, mais comme vous pensez bien, je ne faisais aucun obstacle à ses projets. Et de son côté, monsieur de Ligny, pour me donner du regret, du dépit, que sais-je, dans l'espoir de me rendre jalouse, répondait très clairement aux avances de Nanteuil. Voilà comment ils se mirent ensemble. J'en fus enchanté. Nanteuil et moi, nous sommes les meilleurs amis du monde. Madame Douls, entre la haie des curieux, descendait lentement les degrés, se donnait l'illusion d'entendre la foule murmurer « C'est la Douls !» Elle saisit Nanteuil au passage, la pressa sur son cœur, et dans un beau mouvement de charité chrétienne, l'enveloppa de son manteau en disant avec des sanglots « Essaie de prier, mon enfant, et prends cette médaille. Elle a été bénie par le pape, c'est un père dominicain qui me l'a donnée. » Madame Nanteuil, un peu essoufflée, mais qui rajeunissait depuis qu'elle recommençait d'aimer, sortit la dernière. Derville lui serra la main. « Ce pauvre chevalier, murmura-t-il. « Ce n'était pas une mauvaise nature, répondit Madame Nanteuil, mais il a manqué de tact. Un homme du monde ne se suicide pas de cette manière. Ce garçon n'avait pas d'éducation. » Le corbillard se mit en mouvement dans l'ombre colossale du Panthéon et descendit la rue Soufflot, bordée de libraires. Les camarades de chevalier, les employés du théâtre, le directeur, le docteur Socrate, Constantin Marc, quelques journalistes et quelques curieux suivirent. Le clergé et les actrices prirent place dans les voitures, et Nanteuil, malgré l'avis contraire de Madame Douls, suivit avec Fagette dans un coupé de place. Le temps était beau, on causait familièrement derrière le corbillard. Mais c'est au diable bouilli, le cimetière. Montparnasse, oh, 30 minutes au plus. Tu sais que Nanteuil est engagé à la Comédie-Française? Est-ce que nous répétons aujourd'hui? Demanda Constantin Marc à Romilly. Oh oui, certainement, à 3 heures au foyer. Oh, nous répétons jusqu'à 5 heures. Ce soir, je joue. Demain, je joue. Dimanche, je joue. En matinée, le soir. Oh, nous autres comédiens, nous n'avons jamais fini. Il faut toujours recommencer, toujours donner de sa personne. Le poète Adolphe Meunier lui mit la main sur l'épaule. Ça va bien, Romilly? Et vous, Meunier? Toujours pousser le rocher de Sisyphe. Ça serait rien, mais le succès dépend point que de nous. Si la pièce est mauvaise et tombe, tout ce que nous y avons mis, notre travail, notre talent, un morceau de notre vie, s'écroule avec. Est-ce que j'en ai vu de ces éboulements? Que de fois la pièce s'est abattue sous moi, comme une rosse, et m'a fichue par terre. Ah, si l'on n'était puni que de ses fautes! Mon cher Obéi, répliqua vivement Meunier, croyez-vous que notre fortune, à nous, auteurs dramatiques, ne dépende pas des comédiens autant que de nous-mêmes? Croyez-vous que jamais ils ne jettent bas par leur imprudence ou leur maladresse une œuvre qui s'élançait de haut vol? Est-ce que nous aussi, comme le légionnaire de César, nous ne sommes pas saisis de troubles d'angoisse à cette pensée que notre sort n'est pas assuré par notre propre valeur, mais qu'il dépend de ceux qui tombent avec nous? C'est la vie, cela, dit Constantin Marc. En toute entreprise, partout et toujours, nous payons pour les fautes des autres. Il est trop vrai, reprit Meunier, qui venait de voir tomber son drame lyrique de Pandolfe et Clarimonde. Mais cette iniquité nous révolte. Elle ne doit nullement nous révolter, répliqua Constantin Marc. Il y a une loi sacrée qui gouverne le monde, à laquelle nous devons obéir, que nous devons adorer. C'est la justice, l'auguste, la sainte justice. Elle est bénie partout sous les noms de bonheur, fortune, génie et grâce. C'est une faiblesse de ne pas la reconnaître et la vénérer sous son vrai nom. « C'est bizarre ce que vous dites là, » fit le doux Meunier. « Réfléchissez, » reprit Constantin Marc. « Vous aussi vous êtes du parti de la justice, puisque vous reprochez et recherchez les honneurs, et que vous voulez raisonnablement étouffer vos concurrents. Désir habituel, naturel, juste et légitime. Connaissez-vous rien de plus stupide et de plus odieux que les gens que nous avons vus réclamer la justice? L'opinion publique qui n'est pourtant pas bien intelligente, le sens commun qui n'est pourtant pas un sens supérieur, a senti qu'ils étaient au rebours de la nature, de la société, de la vie. Mais certainement, dit Meunier, mais la justice n'est que le rêve de quelques imbéciles. L'injustice, c'est la pensée même de Dieu. La doctrine du péché originel suffirait seule à me rendre chrétien, et la doctrine de la grâce renferme en elle toutes les vérités humaines et divines. Vous avez la foi ? Demanda respectueusement Romilly. Je n'ai pas la foi, mais je voudrais l'avoir. Je la considère comme le bien le plus précieux dont on puisse jouir en ce monde. À Saint-Bartholomé, je vais à la messe, tous les dimanches et fêtes. J'ai pas entendu une seule fois le curé faire son prône sans me dire « Je donnerai tout ce que j'ai, ma maison, mes champs, mes bois, pour être aussi bête que cet animal-là. » Michel, jeune peintre à la barbe mystique, disait à Roger le décorateur « Oh, ce pauvre chevalier avait des idées, mais toutes n'étaient pas bonnes. » Le soir, il rentra radieux et transfiguré dans la brasserie, s'assit près de nous et, tordant son vieux feutre entre ses longs doigts rouges, s'écria « J'ai découvert la vraie manière de jouer le drame. Personne jusqu'ici n'a su jouer le drame, personne, entendez-vous ?» Et il nous conta sa découverte. Je viens de la chambre, on m'avait fait grimper à l'amphithéâtre. Je voyais les députés grouiller comme des insectes mus noirs au fond d'un puits. Tout à coup, un petit homme, trapu, monte à la tribune. Il avait l'air de porter sur son dos un sac de charbon. Il écartait les coudes et fermait les poings. Oh, il était comique, quoi. Il avait l'accent méridional et faisait des fautes de diction. Il parla des travailleurs, des prolétaires de la justice sociale. Oh, c'était superbe! Sa voix, son geste vous prenaient aux entrailles. La salle faillit crouler sous les applaudissements. Je me suis dit, bien, ce qu'il fait, je le ferai au théâtre, et mieux. Moi, un comique, je jouerai le drame. Les grands rôles de drame doivent pour produire leur effet tenus par un comique, mais qui a de l'âme. Et le pauvre garçon croyait avoir conçu un art nouveau. On verra, disait-il. À l'angle du boulevard Saint-Michel, un journaliste s'approcha de Meunier. Est-ce vrai que Robert Deligny a été amoureux fou de la Fagette? Bon, si l'homme, c'est pas depuis longtemps. Il y a 15 jours au théâtre, il m'a demandé qu'est-ce que c'est que cette petite blonde? Et il montrait Fagette. Je ne sais d'où vient, disait le courriériste d'un journal du soir au courriériste d'un journal du matin, cette manie que nous avons de calomnier l'humanité. Je suis étonné, au contraire, du nombre de braves gens que je découvre. C'est à croire que les hommes ont la pudeur du bien qu'ils font et qu'ils se cachent pour accomplir des actes de dévouement et de générosité. N'est-ce pas votre avis? Moi, répondit le courriériste d'un journal du matin, chaque fois que j'ai ouvert une porte par méprise, je le dis au propre et au figuré, j'ai découvert une ignominie insoupçonnée. Si tout à coup la société se retournait comme un gant et qu'on en vit le dedans, oh, nous tomberions tous évanouis de dégoût et d'effroi. Dans le temps, dit Roger au peintre Michel, j'ai connu sur la butte l'oncle de Chevalier. Il était photographe et s'habillait comme un astrologue. C'était un vieux fou qui envoyait toujours à un client le portrait d'un autre. Les clients réclamaient, mais pas tous. Il y en avait même qui se trouvaient ressemblants. Qu'est-ce qu'il est devenu? Oh, il a fait faillite et il s'est pendu. Sur le boulevard Saint-Michel, Pradel, qui marchait à côté de Trublet, profitait encore de l'occasion pour se renseigner sur l'immortalité de l'âme et la destinée de l'homme après la mort. Il n'obtenait rien qui lui parût suffisamment positif et répétait « Mais je voudrais savoir !» À quoi le docteur Socrate répondait « Les hommes ne sont pas faits pour savoir. Les hommes ne sont pas faits pour comprendre. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour cela. Un cerveau d'homme est plus grand et plus riche en circonvolution qu'un cerveau de gorille, mais il n'y a de l'un à l'autre aucune différence essentielle. Nos plus hautes pensées, nos plus vastes systèmes ne seront jamais que le prolongement magnifique des idées que contient la tête des singes. Ce que nous savons de plus que le chien sur l'univers nous amuse et nous flatte. C'est peu de choses en soi, et nos illusions croissent avec nos connaissances. » Mais Pradel n'écoutait plus. Il récitait mentalement le discours qu'il devait prononcer sur la tombe de Chevalier. Quand le convoi tourna vers les pelouses défleuries qui couvrent l'avenue de l'Observatoire, le tramway lui céda le passage par respect pour le mort. Trublet en fit la remarque. « Les hommes, dit-il, respectent la mort parce qu'ils estiment justement que, s'il est respectable de mourir, chacun est assuré d'être respectable du moins en cela. » Les comédiens émus s'entretenaient entre eux de la mort de Chevalier. D'Urville, mystérieusement, d'une voix profonde, révélait le drame. « Bon, c'est pas un suicide. C'est un crime passionnel. Monsieur Deligny a surpris Chevalier avec Nanteuil et lui a tiré 7 balles de revolver. 2 balles ont atteint notre malheureux camarade à la tête et à la poitrine. 4 se sont perdues et la 5e a effleuré Nanteuil, au-dessous du sein gauche. » Nanteuil est blessé? Oh, légèrement. Alors Monsieur Deligny sera poursuivi. Oh, on étouffera l'affaire et on aura raison. Mais je suis exactement informé. Dans les voitures aussi, les comédiennes semaient des bruits divers. Les unes croyaient à un meurtre, les autres à un suicide. Il s'est tiré un coup de revolver dans la poitrine, assurait Falempin. Il n'était que blessé, le médecin l'a dit. Si on lui avait donné des soins à temps, on l'aurait sauvé. Mais ils l'ont laissé sur le plancher, baignant dans son sang. Et Madame Douce dit à Hélène Midi, « Moi, il m'est arrivé bien souvent de m'approcher d'un lit de mort. Alors je m'agenouille et je prie. et aussitôt je me sens pénétré d'une sérénité céleste. « Vous avez de la chance, » lui répondit Hélène Midi. Au bout de la rue Campagne Première, sur les boulevards larges et gris, ils sentirent tous la longueur du chemin parcouru et la tristesse du passage. Ils sentirent que derrière ce cercueil, ils avaient franchi les confins de la vie et qu'ils étaient chez les morts. À leur droite s'étendaient les marbriers et les fleuristes funéraires, des étalages de pots de fleurs et le mobilier économique des tombes, jardinières en zinc, couronnes d'immortels en ciment, anges gardiens en plâtre. À leur gauche, ils voyaient, derrière le mur bas du cimetière, se dresser les croix blanches entre les têtes nues des tilleuls, et partout ils respiraient, dans la poussière pâle, la mort banale, régulière, administrée par la ville et l'État, et pauvrement enjolivée par la piété des familles. Entre les lourds piliers de pierre surmontés de sabliers ailés, ils passèrent. Le char s'avança lentement sur le sable qui criait dans le silence. Il semblait, au milieu des maisons des morts, avoir doublé de hauteur. Les gens du cortège lisaient sur les tombes des noms célèbres ou regardaient la statue d'une jeune fille assise, un livre à la main. Le vieux Maury déchiffrait sur les épitaphes l'âge des défunts. Les vies courtes et plus encore les vies moyennes l'affligeaient comme un mauvais présage. Mais quand il rencontrait des morts exemplaires par leur grand âge, il en recevait avec joie l'espérance et la probabilité d'un long reste de vie. Le char s'arrêta au milieu d'une allée latérale. Le clergé et les femmes descendirent de voiture. De l'âge reçut dans ses bras, du haut du marchepied, la bonne Madame Bravo, qui devenait un peu lourde, et tout à coup, moitié railleur, moitié sérieux, il lui fit des propositions. Bon, elle n'était plus jeune, elle avait un demi-siècle de théâtre. De l'âge, en ses 25 ans, on la trouvait prodigieusement vieille. Et tout en lui parlant à l'oreille, il s'excitait, s'entêtait, devenait sincère, la désirait vraiment par curiosité perverse, par envie de faire quelque chose d'extraordinaire et certitude d'être de force à le faire, peut-être par instinct professionnel de joli garçon, et parce qu'enfin, ayant d'abord demandé ce qu'il ne voulait pas, il commençait à vouloir ce qu'il avait demandé. Madame Bravo s'échappa, indignée et flattée. Et le cercueil allait à bras d'homme par un chemin étroit, bordé de cyprès nains, sous un bourdonnement de prières. In paradisum deducante angeli, in tua adventus suspiciante martires, et perducante in civitatem sanctam Jerusalem, corus angelorum te suscipiat, et cum lassaro quondam popere aeternam abeas requiem. Bientôt il n'y eut plus de voix tracée. Il fallut, à la suite du cercueil agile, du prêtre et des enfants de cœur, s'éparpiller, enjamber les pierres couchées et se couler entre les cipes et les stèles. On perdait, on retrouvait le mort. Nanteuil mettait de l'ardeur à le poursuivre, inquiète, brusque, son livre à la main, tirant sa jupe accrochée aux grilles et frôlant les couronnes sèches qui laissaient sur sa robe de tête d'immortel. Enfin, les premiers arrivés sentirent l'âcre odeur de la terre fraîche et du haut des dalles voisines virent la fosse dans laquelle descendait le cercueil. Les comédiens avaient fait libéralement les frais de l'enterrement. Ils s'étaient cotisés pour acheter à leurs camarades ce qu'il lui fallait de terre, 2 mètres concédés pour 5 ans. Romilly, au nom des acteurs de l'Odéon, avait versé à l'administration 300 francs, exactement 301 francs 80 centimes. Il avait même dessiné un projet de monument, une stèle brisée à laquelle des masques comiques étaient suspendus. Mais à ce sujet, on n'avait pas pris de décision. Le célébrant béait la fosse. Et le prêtre et les enfants murmurèrent des paroles alternées. Requiem aeternam dona ei domine, et lux perpetua lucea tei, requiescat in pace. Amen. Anima ius et animae omnium fidelium defunctorum, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen. De profundis. Chacun va jeter de l'eau bénite sur le cercueil. Nanteuil surveilla tout, les prières, les pelletées de terre, les aspersions. Puis agenouillée sur un coin de tombe, à l'écart, elle récita avec ferveur « Notre Père qui êtes aux cieux, que... » Pradel au bord de la fosse parla. Il se défendit de faire un discours. Mais le théâtre de l'Odéon ne pouvait pas laisser partir sans une parole d'adieu à un jeune artiste aimé de tous. Je dirais donc, au nom de la grande et cordiale famille dramatique, les mots qui sont dans tous les cœurs. Groupés autour de l'orateur dans des attitudes classées, les comédiens écoutaient avec une science profonde. Ils écoutaient en action, de l'oreille, de la bouche, de l'œil, des bras, des jambes. Ils écoutaient chacun dans sa manière, avec noblesse, ingénuité, douleur ou révolte selon son emploi. Non, le directeur du théâtre ne laisserait pas partir sans une parole d'adieu le vaillant comédien qui, dans sa trop courte carrière, avait donné plus que des espérances. Chevalier fougueux, inégal, inquiet, communiquait à ses créations un caractère particulier, une physionomie distinctive. Nous l'avons vu il y a bien peu de jours, je pourrais dire il y a bien peu d'heures, imprimer à une figure épisodique un relief puissant. L'illustre auteur de la pièce en était frappé. Chevalier touchait au succès. Il avait le feu sacré. On s'est demandé la cause de sa fin si cruelle. Ne cherchez pas. Chevalier est mort de son art. Il est mort de la fièvre dramatique. Il est mort dévoré par la flamme que nous tous nous consume lentement. Hélas, le théâtre, dont le public voit seulement les sourires et les larmes, aussi douces que les sourires, est un maître jaloux qui exige de ses serviteurs un dévouement absolu, les plus douloureux sacrifices et qui parfois demande des victimes. Allez, adieu, chevalier, au nom de tous vos camarades, adieu. Les mouchoirs essuyèrent les larmes. Les comédiens pleuraient sincèrement. Ils pleuraient sur eux. Quand ils se furent tous écoulés, le docteur Trublet, resté seul dans le cimetière avec Constantin Marc, embrassa du regard la multitude des tombes. « Vous rappelez-vous, dit-il, une réflexion d'Auguste Comte, l'humanité est composée de morts et de vivants. Les morts sont de beaucoup les plus nombreux. Certes, les morts sont de beaucoup les plus nombreux. Par leur multitude et la grandeur du travail accompli, ils sont les plus puissants. Ce sont eux qui gouvernent, nous leur obéissons. Nos maîtres sont sous ces pierres. Voici le législateur qui a fait la loi que je subis aujourd'hui, l'architecte qui a bâti ma maison, le poète qui a créé les illusions qui nous troublent encore, l'orateur qui nous a persuadés avant notre naissance. Voici tous les artisans de nos connaissances vraies ou fausses, de notre sagesse et de nos folies. Ils sont là, les chefs inflexibles, auxquels on ne désobéit pas. En eux est la force, la suite et la durée. Qu'est-ce qu'une génération de vivants en comparaison des générations innombrables des morts? Qu'est-ce que notre volonté d'un jour devant leur volonté mille fois séculaire? Nous révolter contre eux, le pouvons-nous? Nous n'avons pas seulement le temps de leur désobéir. Enfin, vous y venez, docteur Socrate, s'écria Constantin Marc. Vous renoncez au progrès, à la justice nouvelle, à la paix du monde, à la libre pensée. Vous vous soumettez à la tradition. Vous consentez à la vieille erreur, à la bonne ignorance, à la véritable iniquité de nos pères. Vous rentrez dans la tradition française. Vous vous soumettez à la coutume antique, à l'autorité des ancêtres. Mais où prenez-vous la coutume et la tradition? Demanda Trublet. Où prenez-vous l'autorité? Il y a des traditions inconciliables, des coutumes diverses, des autorités opposées. Les morts ne nous imposent pas une volonté. Ils nous soumettent à des volontés contradictoires. Les opinions du passé qui pèsent sur nous sont incertaines et confuses. En nous écrasant, elles se détruisent les unes les autres. Tous ces morts ont vécu, comme nous, dans le trouble et la contradiction. Chacun, en son temps, a fait à sa manière, dans la haine ou l'amour, le songe de la vie. Faisons ce rêve à notre tour, avec bienveillance et joie, s'il est possible. Et allons déjeuner. Je vais vous mener dans un petit bouchon de la rue Vavin, chez Clémence, qui ne fait qu'un plat, mais un plat prodigieux. Oh, le cassoulet de Castelnaudary, qu'il ne faut pas confondre avec le cassoulet à la mode de Carcassonne, simple gigot de mouton aux haricots. Le cassoulet de Castelnaudary contient des cuisses d'oie confites, des haricots préalablement blanchis, du lard et un petit saucisson. Oh, pour être bon, il faut qu'il ait cuit longuement sur un feu doux. Le cassoulet de Clémence cuit depuis 20 ans. Elle remet dans le poêlon tantôt de l'oie ou du lard, tantôt un saucisson ou des haricots, mais c'est toujours le même cassoulet. Le fond reste, et ce fond antique et précieux lui donne la saveur que, dans les tableaux des vieux maîtres vénitiens, on trouve aux chairs ambrées des femmes. Allez, venez, je vais vous faire goûter le cassoulet de Clémence. Après avoir fait sa prière, Nanteuil, sans écouter le discours de Pradel, sauta dans une voiture pour rejoindre Robert de Ligny, qui l'attendait devant la gare Montparnasse. Au milieu des passants, ils se donnèrent la main et se regardèrent sans se rien dire. Mieux que jamais, ils se sentirent liés l'un à l'autre. Robert l'aimait. Il l'aimait sans le savoir. Elle n'était pour lui, à ce qu'il croyait, qu'un plaisir dans la série infinie des plaisirs possibles. Mais le plaisir avait pris pour lui la forme de Félicie, et s'il avait mieux réfléchi aux innombrables femmes qu'il se promettait dans la vaste suite de sa vie nouvellement commencée, il aurait reconnu que maintenant, c'était toutes des Félicies. Il aurait pu du moins s'apercevoir que, sans intention de lui être fidèle, il ne songeait pas à la tromper et que, depuis qu'elle s'était donnée, il n'en avait pas désiré une autre. Il ne s'en apercevait pas. Cette fois, pourtant, sur cette place agitée et banale, en la voyant non plus dans l'ombre voluptueuse de la nuit, ni sous ces lueurs caressantes de l'alcôve qui donnait à sa forme nue le vague délicieux d'une voie lactée, mais sous la dure lumière d'un jour diffus, aux clartés minutieuses d'un soleil sans gloire et sans ombre qui accusait sous la voilette les paupières brûlées de larmes, les joues menacées, nacrées et les lèvres froissées, il sentit qu'il éprouvait pour cette chair un goût mystérieux et profond. Il ne l'interrogea pas. Ils se dirent des mots tendres. Et comme elle avait très faim, il l'amena déjeuner dans un cabaret connu, dont le nom brillait en lettres d'or sur une des vieilles maisons de la place. Ils se firent servir dans un jardin d'hiver, dont les rochers, le bassin et l'arbre étaient multipliés par des glaces encadrées de treillis verts. Devant la nappe, en consultant le menu, Ils causèrent avec plus d'abandon qu'ils n'avaient fait jusque-là. Il lui disait que les émotions et les traces de ces trois derniers jours l'avaient énervé, mais qu'il n'y pensait plus, et que ce serait absurde de s'occuper encore de cette affaire. Elle lui parlait de sa santé, se plaignait de ne pouvoir dormir que d'un mauvais sommeil et d'avoir des rêves. Mais elle ne lui disait pas ce qu'elle voyait dans ses rêves, et elle évitait de parler du mort. Il lui demanda si elle n'avait pas eu une matinée fatigante et pourquoi elle était allée jusqu'au cimetière, ce qui ne servait à rien. Incapable de lui expliquer les profondeurs de son âme soumise aux rites, aux cérémonies propitiatoires et aux incantations, elle secoua la tête comme pour dire « fallait ». Tandis qu'aux tables voisines, des déjeuners achevaient leur repas, ils causèrent longtemps, tous deux, à voix basse, en attendant d'être servis. Robert s'était promis, il s'était juré, de ne jamais reprocher à Félicie d'avoir eu Chevalier pour amant, ou même de lui faire une seule question sur ce sujet. Et pourtant, par une sourde rancune, par une mauvaise humeur remontée, par une naturelle curiosité, et aussi parce qu'il l'aimait trop pour se contenir, il lui dit d'une voix amère « Tu as été avec lui autrefois. » Elle se tut et ne nia pas. Non qu'elle sentit qu'il était désormais inutile de mentir. Au contraire, elle avait l'habitude de nier l'évidence. Et certes, elle avait trop le sens des hommes pour ignorer qu'en amour, il n'y a pas de mensonge si grossier qu'il ne puisse croire s'ils en ont envie. Mais cette fois, contre sa nature et son habitude, elle ne mentit pas. Elle avait peur d'offenser le mort. Elle pensait que le renier, ce serait lui faire tort, lui retrancher sa part, l'irriter. Elle se tut, craignant de le voir venir s'accouder à la table, avec son rire fixe et sa tête trouée, et de l'entendre dire de sa voix plaintive « Félicie, tu n'as pas oublié pourtant notre petite chambre de la rue des Martyrs. » Ce que, depuis sa mort, il était devenu pour elle, elle n'aurait pu le dire, tant c'était hors de ses croyances et contraire à la raison, et tant les mots qu'il eût exprimés lui semblaient vieux, ridicules et hors d'usage. Mais, d'une hérédité lointaine, ou plutôt de quelques récits entendus dans son enfance, elle tirait le sentiment confus qu'il était au nombre de ces morts qui tourmentaient autrefois les vivants et qu'exorcisaient les prières et prêtres. Car, en pensant à lui, elle commençait instinctivement le signe de la croix et ne s'arrêtait que pour ne pas paraître ridicule. Ligny, la voyant triste et troublée, se reprocha ses paroles dures et inutiles, et dans le moment même où il se les reprochait, il en ajoutait d'aussi dures et d'aussi inutiles. « Mais tu m'avais pourtant dit que ce n'était pas vrai !» Elle répondit avec ferveur. « C'est que je voulais, vois-tu, que ce ne fût pas vrai !» Elle ajouta. « Ah, mon chéri, depuis que je suis à toi, je t'assure bien que je n'ai pas été à un autre. Je n'y ai pas de mérite. Ça me serait impossible. Comme les jeunes animaux, elle avait besoin de gaieté. » Le vin, qui brillait dans son verre ainsi que de l'ambre liquide, fut une joie pour ses yeux et elle en mouilla sa langue avec volupté. Elle s'intéressa au plat qu'on lui servait et surtout aux pommes soufflées, semblables à des ampoules d'or. Puis elle observa les déjeuneurs attablés dans la salle et s'amusa d'eux, leur prêtant, sur leur mine, des sentiments ridicules et des positions grotesques. Elle remarquait les regards malveillants que lui jetaient les femmes et les efforts que faisaient les hommes pour lui paraître beau et considérable. Et elle fit une réflexion générale. « Robert, as-tu remarqué que les gens ne sont jamais naturels? Ils ne disent pas une chose parce qu'ils la pensent, Ils la disent parce qu'ils croient que c'est celle-là qu'il fallait dire. Cette habitude les rend très ennuyeux. Et il est extrêmement rare de trouver quelqu'un de naturel. Toi, tu es naturel.
Mais en effet, je ne crois pas être poseur.
Oh, tu poses comme les autres, mais tu poses dans ta nature. Je vois bien quand tu veux m'épater. Elle lui parla de lui-même, et amenée par le cours involontaire de ses idées au drame de Neuilly, elle demanda « Ta mère ne t'a rien dit ?»«
Non. » « Elle a su, pourtant.
Oh, ça, oui, c'est probable. » « Est-ce que tu t'entends bien avec elle ?»«
Mais oui. »
« On dit qu'elle est encore très belle, ta mère, est-ce vrai ?» Il ne répondit pas et essaya de changer la conversation. Il n'aimait pas que Félicie lui parlât de sa mère ni s'occupât de sa famille. Monsieur et Madame de Ligny jouissaient de la plus haute considération dans la société parisienne. Monsieur de Ligny, diplomate d'origine et de carrière, était en soi très honorable. Il était même avant que de naître, par les services diplomatiques que ses ancêtres avaient rendus à la France. Son bisaïeul avait signé l'abandon de Pondichéry à l'Angleterre. Madame de Ligny vivait très correctement avec son mari, mais sans aucune fortune, elle menait grand train et ses toilettes étaient une des dernières gloires de la France. Elle recevait dans son intimité un ancien ambassadeur. Le vieillard, son âge, sa situation, ses opinions, ses titres, sa grande fortune rendaient cette liaison respectable. Madame de Ligny tenait à distance les dames de la République et leur donnait, quand il lui plaisait, des leçons de convenance. Elle n'avait rien à redouter de l'opinion élégante. Robert savait qu'elle était respectable aux yeux du monde, gens du monde. Mais il craignait toujours qu'en parlant d'elle, Félicie ne le fît pas avec toute la réserve nécessaire. Il avait peur que, n'étant pas du monde, elle ne dît ce qu'il ne fallait pas dire. Il avait tort. Félicie ne connaissait pas la vie intime de Madame de Ligny, et si elle l'avait connue, elle ne l'aurait pas blâmée. Cette dame lui inspirait une curiosité naïve et une admiration mêlée de crainte. Son amant, ne voulant pas lui parler de sa mère, elle voyait dans cette réserve une morgue aristocratique et même une marque de mésestime qui révoltait son orgueil de fille libre et de plébéienne. Elle lui disait avec aigreur « Je peux bien te parler de ta mère. » Et la première fois, elle avait ajouté « La mienne la vaut bien. » Elle s'était aperçue que c'était commun et elle ne le disait plus. Maintenant, la salle était vide. Elle regarda sa montre et, voyant qu'il était 3 heures, « Ah, il faut que je file. On répète la grille cet après-midi. Constantin Marc doit être déjà au théâtre. Ah, voilà encore un drôle de garçon. » Il raconte que dans le Vivarais, il culbute toutes les femmes. Et il est si timide qu'ils n'ont seulement pas causé avec Fagette et Falempin. Je lui fais peur. Ça m'amuse. Elle était si lasse qu'elle n'avait pas le courage de se lever. C'est bizarre. On dit partout que je suis engagé aux Français. Mais c'est pas vrai. Il n'en est même pas question. Bien sûr que je ne pourrais pas rester indéfiniment où je suis. À la longue, on s'abrutirait là-dedans. Mais rien ne presse. J'ai un grand rôle à créer dans la grille. On verra après. Ce que je demande, moi, c'est à jouer la comédie. Je n'ai pas envie d'entrer aux Français pour n'y rien faire. » Tout à coup, regardant devant elle avec des yeux pleins d'épouvante, elle se rejeta en arrière, pâlit et poussa un cri aigu. Puis ses paupières battirent et elle murmura qu'elle étouffait. Robert lui ouvrit son corsage et lui mouilla les tempes d'un peu d'eau. Elle dit « Un prêtre, j'ai vu un prêtre, il était en surplis, ses lèvres remuaient, ne faisaient pas de bruit,
Il m'a regardé.
Il tâcha de la rassurer. Mais voyons, ma chère, comment veux-tu qu'un prêtre, en surplis, passe dans le restaurant? Elle écoutait, docile, et se laissait persuader.
Oui, tu as raison. Tu as raison, je sais bien.
Très vite, dans sa petite tête, les illusions se dissipaient. Elle était née 230 ans après la mort de Descartes, dont elle n'avait jamais entendu parler, et qui lui avait pourtant enseigné l'usage de la raison, comme aurait dit le docteur Socrate. À 6 heures, Robert la prit au sortir de la répétition, sous les arcades, et l'emmena en voiture. Elle demanda « Où allons-nous ?» Il hésita un peu. « Tu ne veux pas retourner là-bas, dans notre maison ?» Oh ! Elle s'écria « Non, 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 par exemple, jamais !» Il lui répondit qu'il l'avait pensé et qu'il chercherait autre chose. Un petit rez-de-chaussée à Paris, qu'en attendant, pour aujourd'hui, il se contenterait d'un logis de hasard. Elle le regarda, les yeux fixes et lourds, l'attira violemment à elle et lui brûla l'oreille et le cou du souffle de son désir. Puis ses bras se détachèrent, elle retomba molle et triste à son côté. Quand le fiacre s'arrêta, « Tu m'en voudras pas, n'est-ce pas, mon Robert, de ce que je vais te dire ? Pas aujourd'hui, non, demain. » Elle avait jugé nécessaire de faire ce sacrifice aux morts jaloux.